On va baisser cette musique fabuleuse qu'on pourrait écouter jusqu'au bout de la nuit, n'est-ce pas, Stéphane?
Non.
Si.
Non.
Si.
Non.
Si.
Chez toi peut-être, mais pas chez moi.
Eh ben écoute, je t'inviterai à l'écouter à la maison jusqu'au bout de la nuit.
Ouais.
Alors, on a effectivement parlé avec...
Mais bon, pour myself, amener la prochaine fois, amener un grappin, une corde et un parachute.
On a écouté la dernière fois, Alain nous parlait de tous ces précurseurs de littérature, tous ceux qui ont visité l'Afrique avant de découvrir qu'il y avait des Africains. Et effectivement, la bande dessinée héritée du pulp a visité l'Afrique sans trouver d'autochtones. On peut dire comme ça.
On peut dire ça comme ça, ouais.
De toute façon, les colons ne cherchaient pas des autochtones, mais de la marchandise. Et comment présenter un esclavagiste de manière positive en ne montrant pas d'esclaves? Du coup, la présence des Afro-Américains, aujourd'hui, dans les comics, se fait essentiellement sous le fait qu'ils soient Américains et pas Afro. On voit très très peu d'Africains dans les comics, et il est très rarement question de l'Afrique.
Oui, je te suis là.
D'ailleurs, quand tu regardes en franco-belge, on a à peu près les mêmes problèmes. Je me suis quand même fait une petite rétrospective de ce que je pouvais trouver sur l'Afrique.
Ouais.
C'est franco-belge. Alors, on a des touristes blancs qui vont visiter l'Afrique et qui trouvent ça génial. Ou qui se retrouvent otages. Mais on a le touriste blanc. On a aussi des histoires qui sont absolument surréalistes, où, en gros, si on présente des adultes pour présenter l'Afrique, on va sur du public reportage.
Oui.
J'ai notamment commencé à lire un bouquin sponsorisé par Amnesty International, qui, effectivement, raconte les événements en Afrique. Je te promets que les dessins, ce sont des visages noirs avec des bouches rouges et des yeux blancs. C'est aussi raciste que le titre dont ils voulaient faire interdire la réimpression il n'y a pas longtemps.
Oui, mais avec Tintin au Congo aussi, voilà. On a toujours ces soucis-là. Oui.
De toute façon, Tintin au Congo, soyons clairs. Hein.
Mais
dès que les Américains veulent dire la bande dessinée c'est raciste, c'est Tintin au Congo. Sauf ils ne balayent pas non plus devant leur poste.
Oui, non, mais en plus, soyons clairs, parce que ça dépend aussi de quelle version de Tintin au Congo. Parce que c'est un des titres qui a aussi été largement...
Moins que les autres.
Oh, quand même. Elle a quand même été pas mal rebidouillée, etc. Ne serait-ce. Il y a eu sur ça pas mal de points.
Oui, mais pas entièrement à la fin des années après-guerre.
Ah, quand même, si, même avant.
Oui, mais après-guerre, parce que c'est le seul qui n'a pas été entièrement redessiné.
Ah, ils sont quand même sacrément modifiés les dialogues, etc. Hein.
Mais voilà.
Non, donc, mais il y a eu justement pour essayer de faire sauter cette partie-là.
Si on regarde, du coup, qui représente l'Afrique chez nos maisons d'édition principales. Chez Marvel, on va arriver à un constat très simple. Il y a deux Africains. Il y a Black Panther, sur lequel je ne vais pas revenir, parce que c'est toi, effectivement, qui va nous le présenter après. Et soyons clairs,
Falcon.
Comment est-on arrivé à voir ce prince africain qui était, je crois, en plus, lors de ses premières apparitions, étudiant aux États-Unis dans les Fantastic Four? Je crois qu'il était étudiant aux États-Unis. Je me trompe peut-être.
Très bonne question.
Mais voilà.
Alors là,
mais
surtout, de toute façon, ça, effectivement, je vais refarfouiller parce qu'après, comme il a été aussi enseignant pendant un moment.
Voilà. Surtout, ce qui est important, c'est que pourquoi on a créé le Wakanda? Parce qu'il fallait un pays d'Afrique avec des richesses inexplorées à piller. On a créé le Wakanda pour piller le vibranium. Et d'ailleurs, effectivement, l'opposant à l'époque, c'était Klo, qui était blanc.
Voilà. Oui, et sud-africain, donc en plus,
sud-africain.
Où c'est vrai que le côté apartheid de tout le bassin, on y allait.
Donc voilà, on a ce personnage de Black Panther. Le deuxième personnage, c'est celui de Storm. Petit détail sur Storm, qu'on nous présente comme une déesse africaine.
Elle est quand même américaine de...
Elle est née sur le sol américain. Elle a le droit du sol pour elle. Et du coup, ça modifie quand même complètement cette vision de l'Afrique. Les seules vraies histoires qui ont joué sur Storm en Afrique, hormis quelques flashbacks dans le passé, notamment pour la faire rencontrer Black Panther, c'est Life and Death de Barry Windsor Smith.
Avec Claremont. La suite non officielle, Ad Astra.
Ad Astra in Africa. Qui est un des cinq seuls titres de comics que j'ai trouvé avec le mot Afrique ou Africa dedans. Enfin, Africa ou African.
Après, il y a eu quand même d'autres comics. Alors, il y a eu aussi pas mal de choses chez Marvel qui se passaient en Afrique.
Non. il se passait dans la jungle. Sans préciser qu'ils étaient forcément en Afrique.
Ah, quand les dernières mini-séries Storm ou autres, ils indiquent clairement qu'ils sont en Afrique.
Mais on est toujours sur le personnage de Storm.
Oui, voilà. Certes, mais c'est quand même en Afrique.
Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde dans l'univers Marvel, mais comme dans beaucoup de séries, cette jungle africaine n'est pas peuplée d'hommes noirs, elle est surtout peuplée de dinosaures. Il y a chez énormément d'éditeurs, et ça date de China, qui déjà avait des dinosaures, l'Afrique est peuplée de dinosaures. C'est tellement arriéré que les dinosaures, ils sont encore en vie. C'est déjà une image relativement raciste du concept. Il y a toujours des dinosaures en Afrique dans les comics. On arrivait effectivement à nous faire des jungoubliers, des Lost Lands, que ce soit dans des séries comme Turok ou dans des séries comme La Terre Sauvage chez Marvel.
Chez Marvel, mais enfin, dans son Khazar. Hein, déjà, enfin, la jungoubliée, on est dans le Khazar. Après, on a aussi toujours les mêmes topos avec Skataris.
Tout à fait.
Chez DC, hein.
Mais chez DC, on va arriver sur quelque chose.
Et avec aussi, de toute façon, chez DC, une île en plein milieu dans le Pacifique qui a fait. Qui a causé tout plein de soucis aux pauvres GI aux pauvres japonais qui rêvaient d'en découdre. Mais parce qu'ils avaient des petits arbitres qui étaient des tyrannosaures.
Mais quand on y regarde, chez DC, on est peut-être encore plus raciste que chez Marvel.
Alors ça, vas-y, explique.
Parce que, bon. On va déjà rarement parler d'Afrique. L'Afrique va être définie à travers le Congo. Congoria, Congobile. Bizarrement, un des seuls pays qui n'a pas été colonisé par les Anglo-Saxons.
Oui.
C'est sur les Français que ça retombe. Et les Belges, mais bon, voilà.
Ouais, enfin bon, c'est pour les Américains, Balou Français, c'est quasiment pareil. Hein.
Oui, mais surtout, c'est pas américain. C'est pas WASP. Donc, on peut y aller.
Ouais, sauf qu'ils ont là aussi dans la catégorie, il faudrait bien de regarder la poutre, on va enlever la poutre qu'ils ont dans leur œil avant de faire suer le voisin.
Parce qu'au Congo, soyons clairs, on a le même problème qu'ailleurs chez DC. DC ne veut pas montrer l'Africain parce que c'est raciste. Donc DC a une collection absolument énorme de gorilles parlants.
Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Marvel en a quelques-uns aussi, mais alors d'ici, c'est vrai qu'ils ont...
D'ici, il n'y a que ça. Je te parlais de Congobile et de Congoria. On a quand même toute la base de l'ennemi de Flash, dont le nom va m'échapper, qui était dans la série télé récemment.
C'est Wannabeast
Non.
Gorilla
Grodd, voilà. On va avoir effectivement Mister.
Là, c'est même pas qu'un gorille, c'est toute une civilisation. Voilà. Gorille parlant et télépathe.
Enfin, dans les Titans, on va avoir quand même Mister Mala, qui est quand même un gorille armé avec son béret rouge et ses comment.
Les cartouchières et la mitrailleuse lourde.
Voilà. Et là, on se dit putain, les Africains, non seulement c'est des gorilles, mais ils sont tous terroristes. On a une panoplie absolument surréaliste, même des séries comme Angel and the Ape jouées sur effectivement l'homme noir, c'est clivant, le gorille parlant, ça plaît à tout le monde. Oui, mais ça reste un peu raciste.
Oui, enfin, ils ont quand même aussi une autre tradition avec d'autres singes, hein, parce que quand tu regardes, on a quand même aussi Detective Chimp.
Oui, mais alors, la différence entre le chimpanzé et le gorille,
oui.
C'est que dans l'imagerie populaire, le chimpanzé, c'est sympa et pas dangereux. Le gorille, c'est toujours méchant et dangereux.
Ah ben oui, tu veux pas faire des guili-guili. Voilà. Hein.
On va pas aller effectivement jusqu'à réinterpréter tout ce qu'on pourrait réinterpréter si on regardait du côté de la planète des singes. Mais effectivement, quand les singes reprennent la civilisation... on revient à la Jeu-Pierre.
Ah, on a quand même pas que. Enfin, l'homme, oui, redescend toute l'échelle de la civilisation. Les singes la montent. Mais finalement, reproduisent les mêmes travers.
Mais avec beaucoup moins de technologie.
Certes, mais qui progresse aussi. Mais on n'est pas au même.
Voilà.
Ouais, mais c'est intéressant. Après, effectivement, la planète des singes, là, je pense qu'il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. Mais là, on en a pour une ou deux émissions.
Ouais, tout à fait. La planète des singes, effectivement, ça reste aussi une de ces. Voilà. Mais en même temps, la planète des singes, on se garde bien de le faire se passer en Afrique.
Non.
On ne parle pas d'Afrique dans la planète des singes. On évite effectivement ce.
Bah, non, parce que de toute façon, quand tu vois, on est sur le continent américain, on le sait, mais qui a quand même bien évolué.
Il a morflé.
Ah bah oui, quelques bombes atomiques plus tard, ça laisse toujours des traces. Hein.
Voilà. Et du coup, quand on regarde chez DC, en dehors de ces singes, et bah, si on recherche des vrais personnages africains, alors venant d'Afrique, hein, des hommes noirs et des femmes noires, on commence à se limiter sérieusement. Alors, soit effectivement ils sont noirs américains, ils ne savent même plus de quel pays d'Afrique sont leurs origines, ce qui est malheureusement le cas de la plupart des Afro-Américains aujourd'hui. On a effectivement le personnage de Vixen, alors qui elle est mis en avant régulièrement ces dernières années parce que ben il faut des quotas de personnes black dans l'animé et du coup Vixen c'est elle est femme et black en même temps, elle remplit deux quotas. Et elle sert pas mal. Donc, alors, avec un peu un personnage très ambivalent, parce qu'elle est quand même d'origine africaine, mais star américaine. Elle est héritière du pouvoir ancestral, mais elle est quand même loin d'être dans les standards de la femme africaine.
Non, ça, on est vraiment plus sur une femme de civilisation, enfin civilisée. Et c'est pas raciste hein, ce que je dis. Hein.
Mais ouais, voilà, mais on est quand même sur un top modèle qui défile sur les podiums et plus que sur une femme, voilà. Et puis on a eu le personnage de Batwing récemment, qui était très intéressant dans son style. On veut créer, alors, déjà, on nous dit on crée un Batman par pays, et on en a un pour l'Afrique. Mmh. C'est un peu un continent. Je pense que techniquement, il y avait de quoi mettre plusieurs Batman en Afrique parce que c'est pas non plus le continent où il y a le moins de corruption et de
guérilla à battre. Effectivement, ça, on était bien dans cette logique de Batman Incorporated.
Et puis surtout, à mi-parcours, on se rend compte que le Batman d'Afrique, tout le monde s'en fout. On s'en débarrasse et on revient sur un nouveau Batwing qui est le fils de Lucius Fox. Donc, on est revenu à un Américain de la haute, même s'il est black.
Tout à fait. Donc, effectivement, c'est quand même très, très léger.
Voilà. Alors, j'en revenais aussi à ce que je disais par rapport à ça. Pendant ce temps-là, en franco-belge, clairement, en franco-belge, quand on veut nous présenter la vie en Afrique, en général, on choisit un garçon de 8 ans qui espiègle et qui ne va pas à l'école. C'est le cliché de la vie africaine. C'est-à-dire qu'on reste dans cette logique de la rue Cazeneuve ou de Kirikou. On va vous présenter la vie africaine à travers, effectivement, un gamin insouciant pour échapper à toutes les difficultés de la vie. Voilà. Série assez intéressante pour ça, justement, Aya Diopongo, qui était une série en 6 tomes qui était sortie chez Gallimard, qui présentait, du coup, la chose à travers la vision d'adolescente. Voilà, donc où du coup on était plus lié à on abordait des questions de misogynie, du rôle des femmes, du problème de la contraception et de faut-il tomber enceinte et trouver un mari ou faut-il essayer de faire des études. Mais papa veut pas financer parce que tu n'es pas un garçon. Voilà, on avait effectivement des vrais thèmes, mais c'est assez rare dans ces visions-là. Et effectivement, voir la vie des Africains adultes. Même en bande dessinée franco-belge, c'est un thème qui n'intéresse pas grand monde. Ou alors, on va se retrouver sur des histoires où on va avoir un adulte qui a réussi en Europe et qui nous raconte sa vie quand il était enfant à Bamako. Ça, on nous le fait aussi. Mais c'est vrai que la vie en Afrique contemporaine aujourd'hui, on a du mal, effectivement, à en parler. Alors là, je parlais effectivement de la partie Afrique noire. On va avoir la même problématique qui va se poser au niveau de l'Afrique subsaharienne, où on ne parle plus de jungle, mais de désert, mais on ne parle toujours pas d'Afrique. Voilà. Et du coup, enfin, on en sera effectivement dans cette même logique. Et c'est vrai que du coup, quand on regarde tous les personnages africains qu'on va avoir, eh ben, on a énormément de personnages qui vont venir des États-Unis et pas justement de la, comment de pas d'Afrique. À noter, par exemple, dans la Legend of Super Heroes, on a deux Africains.
Oui, Karate Boy, non ?
Non.
Alors, et Invisible, machin, truc.
Computo et Invisible Kid, qui sont de la même famille, et qui sont, eux, de Côte d'Ivoire. C'est bizarre, on est revenu sur un pays francophone, dis donc.
C'est vrai.
Tout ce qui se passe en Afrique, c'est pas de la faute des Américains, voilà. Donc effectivement, on va voir ces personnages-là. On va avoir des Sud-Africains aussi, parce qu'ils sont blancs, ça passe mieux. Mais bon, une fois qu'on a parlé des Sud-Africains blancs, on est effectivement un peu loin d'évoquer l'Afrique. Surtout quand on le fait dans les années 80, à l'époque de l'apartheid, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment dans cette logique-là. Et puis voilà, il y a différents personnages qui vont sortir, mais qui vont toujours être des personnages très secondaires d'un côté comme de l'autre. Les Africains, alors soit ils viennent de pays imaginaires comme le Wakanda chez Marvel, parce que ça, c'est facile. Et puis en plus, ils viennent tous, ils ont tous été cooptés. On a quand même peu de personnages qui sont vraiment africains. On est toujours dans du noir américain. Et j'ai beau regarder, ben non, on n'a pas grand-chose. Au niveau des comics aujourd'hui, hein, à ton avis, Stéphane, y a-t-il des comics, des éditeurs de comics africains ?
Il y en a.
Il y en a. Mais alors ?
En Afrique, oui, il y a toute une...
Non, mais vendu aux États-Unis.
Alors là... Très bonne question. Bon, je pense qu'il doit y avoir, mais...
Il y a quand même quatre éditeurs.
Ah bon ?
Unix Studios, Knesi Comics, The Comics Public et Vortex 247. Donc quatre éditeurs. Alors, Unix commence un peu à faire parler de lui parce que cet éditeur arrive à avoir des projets qu'ils arrivent à mettre en avant à travers le Free Comic Book Day. D'accord. Mais c'est un peu compliqué. Il y a Malika Warrior Queen qu'on avait vu dans le dernier Free Comic Book Day. Ils ont du mal à s'implanter. En plus, ils ont quand même un contrat d'exclusivité pour l'Europe qui a été attribué à Titan Comics. Donc ça va être un peu compliqué dans la mesure où c'est un éditeur anglais qui a l'exclusivité pour l'Europe d'espérer des versions traduites. Voilà, même en album. Donc on est quand même sur des choses assez étonnantes. De toute façon, quand on regarde les éditeurs et les titres qu'on va voir, on se rend compte que, clairement, on a des séries qui ne vont pas attendre. Chez African Super Hero Comics, on a, donc Comic Republic, on a le personnage d'Avenom qui a eu sa série. Personne ne le connaît.
C'est clair.
Unix avait fait un personnage qui s'appelait Exo avant, donc qui était un espèce d'Iron Man africain. On va avoir chez... Oui ?
Non, mais ça veut dire que ça serait peut-être pas mal aussi de... Parce que j'y pensais, on a oublié quand même tous les personnages Milestones.
Mais les personnages Milestones sont afro-américains.
Oui, mais en termes de représentation du nom, enfin du noir...
Voilà, tout à fait, mais c'est effectivement ce que je disais. Il faut bien regarder, mettre un peu de côté cette question des noirs américains, qui globalement n'ont plus rien d'africain. Donc, il y a quand même deux exceptions intéressantes. Une dont tu parleras la semaine prochaine, une dont je parlerai qu'un 15 jours. Donc tu reviendras la semaine prochaine sur Black Panther.
Oui.
Et dans 15 jours, je reviendrai sur une série Vertigo.
Ah.
Ah oui, une série Vertigo qui se passe en Afrique ? Qui parle vraiment d'Afrique ?
Un old soldier.
Exactement.
Ouais.
Mais ça, c'est pendant 15 jours.
Ouais. Et c'est vrai que la série est quand même aussi étonnante. Malheureusement, bon, elle a duré que 25 numéros, mais quel numéro ?